Alléluia. Dieu est présent dans ce lieu. Hein. Vous pouvez regagner vos places, mais que votre cœur à l'intérieur reste debout. Hein. Je suis heureux de vous retrouver. On a commencé la semaine dernière. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose près des prairies verdoyantes. Il m'attire au bord des eaux calmes. Vous étiez là la semaine dernière? Est-ce que votre voisin était là? Vous avez salué votre voisin, votre voisine. Et je vais faire une dédicace spéciale parce que j'ai retrouvé ma DIRCOM. Elle est où, Jennifer? Bienvenue chez toi, Jennifer. Elle revient du Brésil, on est content de la voir. Les baskets blanches et rouges m'avaient manqué dans cette église. Que toutes les personnes qui ont des baskets blanches et rouges, vous soyez bénies. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On est de plus en plus nombreux à ce culte. Je crois qu'on est peut-être encore un record aujourd'hui. Et on va vivre tout à l'heure un temps merveilleux, notamment à 17h, avec cette salle va être remplie de la gloire de Dieu. Le nom de Jésus va être proclamé par toutes les personnes qui sont investies dans des autorités religieuses, les copes, les orthodoxes, les maronites, les luthériens, les réformés, tout le monde. On va tous se réunir tout à l'heure à 17h pour chanter le seul nom, le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, là, c'est juste entre nous. Pour l'instant, c'est en petit comité. C'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vous ai dit que, la semaine dernière, David, quand il commence un psaume, il encapsule tout dans la première phrase. Pour les feignants comme moi. Parce que toi, tu n'es jamais feignant. Tu n'es pas une feignante, tu lis jusqu'au bout le psaume. Surtout quand il n'y a que 6 versets. C'est le genre de psaume qu'on lit quand on est un peu fatigué, qu'on n'a pas envie de lire longtemps. Mais au cas où, tu n'es pas prêt d'aller très loin, il met dès le début... L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le titre de mon message, depuis la semaine dernière, et puis on va continuer pendant les quelques semaines, c'est « Je ne manquerai de rien du tout ». Et verset par verset, le psalmiste découpe chaque aspect de ta vie, chaque aspect de ma vie, pour te démontrer que Dieu est celui qui pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Premièrement, il me dit que grâce à lui, je peux me reposer dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Grâce à lui, je me repose dans des eaux, dans des prairies verdoyantes. Je vous ai dit juste une chose par rapport aux bergers. Il y a ici des personnes qui sont des leaders par nature. Vous levez le matin, vous êtes déjà en charge. Vous êtes en train de planifier votre journée. Vous êtes des fois obligé de penser pour les autres si vous avez une responsabilité de famille. Même si vous êtes célibataire, des fois dans votre entreprise, on vous a remarqué comme quelqu'un de très actif et on vous a donné des tâches à faire et vous anticipez pour pouvoir toujours gérer et avoir un temps d'avance. Ce qui fait que dans votre fonctionnement, dans votre construction, parce que tu es une maman célibataire, parce que tu es élevé seul un enfant, tu es une survivor. Tu as appris, tu as gagné Koh-Lanta plusieurs fois dans ta vie sans y aller, mais tu es un leader par nature. Il y a des hommes, vous avez affronté ce que c'est que de vivre un échec d'un mariage. Vous avez dû vous reprendre en main, retrouver le goût de vivre. Vous avez dû vous rebattre pour récupérer votre emploi. Et ça, ça fait de vous un survivant. Et ça développe une notion de leadership qui est pas forcément qui fait du bruit, c'est pas forcément un titre, mais vous avez une façon de vivre votre journée comme un berger, comme un leader, parce que le berger, c'est le leader. Sauf que par rapport à Dieu, il faut qu'il t'arrive un moment dans ta vie où tu dises « Wow !» Dieu, je déconnecte là. Quand je suis face à toi, ce n'est pas moi le berger. C'est toi. Et je vous dis, la semaine dernière, moi, ça m'oblige à me repositionner devant Dieu. Comme si Dieu me disait, Yvan, viens t'asseoir là. Je suis très content de tout ce que tu as fait. Tu as géré plein de choses. Tu as pris beaucoup de stress sur tes épaules. Mais ce temps-là, c'est un temps entre toi et moi. Et quand c'est nous deux, toi, tu es la brebis, moi, je suis le berger. Ok Dieu, ça veut dire que tu ne vas pas me faire un emploi du temps, s'il te plaît. Tu ne vas pas me donner 15 minutes pour prier. Ni une heure non plus, parce que je ne te le demande pas. Je suis ton père, je sais que tu n'as pas une heure. Mais juste un temps entre toi et moi où il n'y aura pas besoin ni de la télé, ni du téléphone portable, mais même pas d'un CD de louange. Même pas de forcément de lire la Bible sur ton iPad ou faire quelque chose ou mettre un bruit de fond. Non, juste toi et moi. Parce que les eaux calmes, il faut que je t'y attire parce que naturellement, tu n'y vas pas forcément. Et pour tous les superactifs, les hyperactifs et tous les gens qui ont du mal à ne pas être en train de planifier, c'est le challenge que Dieu vous a lancé la semaine dernière. Venez passer un temps en tête à tête avec Dieu et la prière n'est pas une activité. si vous vivez la prière comme une activité, c'est pas bon non plus. Acceptez peut-être de ne juste d'écouter Dieu même un instant, ou d'écouter le silence de Dieu. Parce qu'il y a une régénération que Dieu fait dans ces moments-là, et si tu ne te régénères pas auprès des eaux calmes, comment tu vas faire quand la vie va être un peu plus tumultueuse? Si tu fais le match avant le match, tu es fatigué avant de commencer. Donc pose-toi, viens auprès de moi, c'est là que tu seras renouvelé. Puis on avait essayé d'aller un tout petit peu plus loin, mais on avait échoué, j'avais échoué, parce qu'il y avait déjà trop de choses à dire là-dessus. Alors aujourd'hui, j'ai commencé au premier culte ce matin en me disant, impeccable, je vais faire le verset 3 et le verset 4. Parce que la semaine dernière, j'ai prévu de faire 3 versets, j'avais réussi à en faire que 2. Donc je me suis dit, je ne vais pas être bête, je vais en faire 2 dès le début. J'en ai fait que 1. Donc pour tous ceux qui trouvent que la prédique est longue, vous êtes heureux. Parce qu'elle ne sera pas trop longue, mais c'est tellement riche. On va juste afficher le verset 3 en lit ensemble. Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Voici ce que le psalmiste dit à propos de Dieu. Dieu, tu me donnes des forces neuves et pour l'honneur de ton nom, tu me mènes pas à pas sur le droit chemin. Alors, vous n'avez pas ça dans votre Bible? Vous aviez quoi dans votre Bible? Il restaure mon âme. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. D'autres ont une autre version. Qu'est-ce que vous avez? On peut le faire un peu, il est 1h30. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez dans votre Bible? En fait, vous n'avez pas votre Bible, d'accord. Et vous ne le connaissez pas non plus par cœur, c'est ça? Il restaure mon âme. Quelqu'un autre chose? Il me redonne des forces, il me donne des forces neuves. Je ne sais pas s'il y a une autre version possible. Alors moi, je suis allé voir au mot à mot en hébreu. Donc, on va faire le mot à mot en hébreu. Oui, Tatiana, tu as quelque chose? Donc, renforce. De la justice pour son nom. Alors, on y va. On regarde en hébreu ce que ça donne. Traduction littérale, ça donnerait ça. Ça s'affiche sur vos écrans. Un petit peu différent. En hébreu, c'est « Il fera revenir le souffle de moi ». Alors, gardez ça en tête, regardez ici. Je sais que dans cette salle, il vous est arrivé, pour certains parce que vous avez vécu un choc, soit parce que vous étiez malade, soit parce que le bassin était trop profond pour vous, que vous ayez perdu votre respiration. Vous est-il arrivé de perdre votre respiration? D'arriver à un point où... Et vous avez l'impression que vous vous noyez, ou bien vous avez l'impression, parce que vous faites un amené du sommeil, une crise d'angoisse, vous ne respirez plus. Moi, ça m'est arrivé. Et j'ai pris ce verset comme une chose extraordinairement belle de Dieu. Dieu te dit, il fera revenir ton souffle. En hébreu, c'est nefesh. Vous savez ce qui est traduit par « il restaure ton âme » ou bien « force ». C'est ni force ni âme. Le mot hébreu, c'est souffle, nefesh, souffle de vie. Ça veut dire, et c'est pour ça que l'âme, c'est le souffle de vie. Et Semer a choisi de dire le mot force, en traduction un peu plus éloignée. Mais l'idée, c'est que Dieu, parce que la respiration, c'est ce qui te donne des forces. Mais ce que Dieu est en train de dire dans ce psaume, enfin, ce que le psalmiste dit de la part de Dieu, il dit, quand j'en peux plus, quand je respire plus, quand j'ai l'impression qu'il n'y a plus de vie en moi, que je suis en train de lâcher mes dernières forces. Il y a mon berger qu'il vient me donner un souffle en moi. Ouh. Je pense à mon ami, j'ai un ami qui était au Brésil, ben, un petit peu comme certaines personnes, et il était au Brésil et il nageait dans l'océan Atlantique version chaude, parce qu'au Brésil c'est un peu plus chaud, même si bon, ça dépend des endroits, mais il nageait, il dit j'étais formidable, j'étais à 50 mètres du rivage, c'était magnifique, c'était idyllique, j'étais sur la plage, il y a une lame de fond qui arrivait, il n'a pas vu venir, et alors qu'il nageait, il s'est fait emporter, il m'a dit la vague m'a fait reculer, m'a emporté. Et je voyais la côte qui s'éloignait. Et plus je forçais, plus je nageais pour essayer de revenir, je me vidais de mes forces. j'y perdais mon énergie, je perdais ma respiration et je reculais. Et dit, alors quand j'ai vu ça, j'ai commencé à angoisser, j'ai commencé à stresser. Du coup, je travaillais encore plus, mais mes mouvements devenaient mal coordonnés. Et alors que mon esprit commençait à craindre, je commençais à me noyer à moitié. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas vrai, tu respires plus. Et il arrivait à un point où il a capitulé, un point terrible où il se dit, Seigneur. Et il me dit, j'ai juste dit, Jésus. Et je me suis laissé embarquer. Il dit, je ne peux pas te dire ce qui s'est passé, j'ai perdu connaissance. Mais quelques secondes après, je me suis réveillé, j'étais sur le sable. Ce que la psalmiste dit, c'est qu'il y a un moment où le souffle, il ne dépend pas de toi. Que tu passes une chimio, que ton conjoint te quitte, que tu vives une crise d'angoisse la nuit, celui qui maîtrise le souffle de vie, c'est Dieu. Et tant que Dieu a décidé qu'il y a du souffle en toi, c'est Dieu qui le met. En fait, tu es tellement habitué à tout contrôler et à tout gérer que quand tu perds ton souffle, tu essayes de le refaire revenir toi-même. Et tous ceux qui ont fait de l'assistance aux noyés savent que quand vous avez quelqu'un qui est en train de couler, contrairement à l'idée de se précipiter de le sauver, il faut attendre le moment où la personne ne se bat plus. Parce que si le noyé qui est en train de se noyer, il continue à se battre, il est capable de t'étouffer, de te griffer et de te faire toi-même couler. Il y a un moment du lâcher-prise qu'il faut attendre. Et dans ce lâcher-prise, tu donnes à Dieu la possibilité de faire ce que lui a dit qu'il allait faire, c'est-à-dire restaurer ton souffle. Et moi, je l'ai vécu ça et c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas venu comme je voulais. Ok, quand tu as sauté dans le grand bassin et que tu as commencé à te noyer, une fois que tu es remonté à la surface, en combien de secondes ton souffle est revenu? Comme ça d'un coup? C'est pas vrai. Vous savez, c'est un processus. Et c'est pour ça qu'en hébreu, fera revenir ou restaurer, c'est un process. Parce que Dieu ne te promet pas qu'il va te donner le souffle comme ça, miraculeusement. Tu ne peux plus respirer, puis c'est bon. Non, c'est... Ça va un peu mieux. Parce que tu lâches prise, tu respires mieux. Depuis que vous êtes arrivé dans cette salle, qui a pensé à respirer au début du message avant de voir ce mot-là? Personne. Et pourtant, à part quelques-uns qui ont toussé un peu, globalement, ça ne va pas chercher loin, personne d'entre vous qui a perdu sa respiration. Et votre Père Céleste le nourrit. Vous voyez ce que je veux dire? Aucun d'entre vous, par ses inquiétudes, peut rajouter un seul souffle à la durée de sa vie. Parce que votre Père Céleste sait combien de jours vous allez à vivre et le souffle de vie qui est en vous, ça ne dépend pas de vous. Oui, mais je suis habitué à tout gérer, j'ai la pression. Puis... Non, là, dans ta relation avec Dieu, c'est l'Éternel qui te donne le souffle de vie. Le Nefesh dépend de Dieu, ça ne dépend pas de toi. Et Shob, restaurer, fera revenir, c'est un processus, ça prend un peu de temps. On peut voir juste Ésaïe 30, regardez, c'est beau ça. Ésaïe 30, c'est un des versets préférés des angoissés. Mais c'est aussi un des versets les moins appliqués par les angoissés. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Si vous revenez, c'est si vous revenez à moi et si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est étonnant, hein? La seule chose que Dieu te demande, c'est de rester tranquille. Toi, tu as envie de t'agiter, mais il te dit, non, reste tranquille, justement. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance en Dieu. Parce que ça ne dépend plus de toi. Une fois que tu es en train de te perdre, lâche l'affaire. Ça ne dépend plus de toi. Au-delà de la chimio, au-delà de ton divorce, au-delà de ton enfant où tu n'arrives plus à gérer, il y a un moment où tu dis, Dieu, tu es mon berger, tu as dit que je manquerai de rien, je lâche l'affaire, c'est ton affaire. Pour l'honneur de ton nom. Il va le faire pour l'honneur de son nom. Mais vous, vous ne l'avez pas voulu. Et souvent, on crie à Dieu pour qu'il intervienne dans la galère à condition que nous, on reste en charge de la galère. Et Dieu dit, excuse-moi, mais si tu te débats, je ne peux pas y aller. Je vais attendre que tu lâches vraiment l'affaire. Et une fois que tu reconnais que le souffle, ça ne peut pas dépendre de toi. Il y a plein de choses qui dépendent de toi. Ton emploi du temps, beaucoup de tes choix dépendent de toi. Mais excuse-moi, en ce qui concerne ton souffle de vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Vous êtes là encore cet après-midi? Alors, pour l'honneur de son nom. 3C, regardez ça s'affiche. En hébreu, c'est à cause de son nom à lui. Enfin, plus précisément, du nom de lui à cause. Parce que vous savez que en hébreu, c'est inversé. Je retiens une chose. Dans ce verset, on étudie simplement ce verset. Dieu ne fait pas toi un cobaye. Dieu ne joue pas avec ta vie. Dieu n'a aucun intérêt à ce que tu te plantes. Dieu n'est pas en train d'expérimenter des choses avec toi. Il dit, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mon nom, je te le donne. Je t'appellerai Christ et ça s'appelle chrétienne. Un gars, ça s'appelle un chrétien. C'est-à-dire que tu appartiens à Christ. Tu portes mon nom. Et dans la version de l'apôtre Paul, il écrit à l'église, il dit, vous êtes, comment vous le dire, vous êtes des ambassadeurs de Jésus. Vous portez le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui au nom de qui tout genou fléchit sur la terre et dans le ciel. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Sauf que vous portez son nom. Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez sérieusement, vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants et essayer au mieux de les aider dans leur vie, vous croyez que le Père Céleste voudrait que tu aies un échec? Tu crois que le Père qui est dans le ciel, le bon berger, a tout intérêt à ce que tes collègues puissent rire de ton mariage? Est-ce que tu crois que ton Père a tout intérêt que tu vives mal ton célibat? Est-ce que tu crois que ton Père a intérêt à ce que tu sois licencié? Est-ce que tu crois que ton Père... Non, à cause de son nom, Dieu dit, je prendrai soin de toi. Vous connaissez le mécanisme des ambassades. Vous avez à Paris, en général, c'est où les ambassades? C'est dans en banlieue pauvre ou bien c'est plutôt en zone chic? Oui, j'ai remarqué que c'est en zone chic. Vous savez pourquoi? Pourquoi les ambassades se mettent en zone chic? Pour l'honneur de leur nom. Parce que si vous trouvez une ambassade avec une façade défoncée, que vous êtes accueilli par un monsieur habillé n'importe comment, un gros jean troué, pas propre sur lui, un peu sale, des poils qui dépassent et tout. Vous allez dire, ouh, c'est quoi le pays là? Vous voyez la dame qui arrive, bonjour, les cheveux pas peignés, pas de maquillage, rien. Bonjour, on est de tel pays. Ah ben dis donc, ça donne envie d'aller visiter. Vous prenez Dieu pour qui? Vous croyez que votre berger, pour l'honneur de son nom, a envie de dire « Ah, c'est ma fille, je vais la faire galérer grave, hein. Comme ça on va l'améliorer. » Ah mais avant tout, Dieu veut te donner de la réussite. Je vous ai dit, ça commence avec les verts pâturages. On va voir la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Il peut vous faire passer par moment, par une vallée où vraiment c'est dur. Mais me faites pas la différence entre la règle et l'exception. La règle, c'est que quand même, Dieu te donne une réussite. Moi, quand je vois ma famille, quand je vois d'où on vient, ah, vous allez me dire, il faut être patient. Mais mon arrière-grand-mère, elle était dans la pauvreté. Elle était dans la difficulté. Elle n'était pas à 35 heures, elle était à un nombre d'heures incalculable. Quand il y a eu la guerre 1918, ils ont été mal conseillés. Toutes les économies, ils n'avaient pris aucun jour de repos pendant leur vie, ils avaient tout placé. Et tout leur patrimoine, tout ce qu'ils avaient mis de côté bêtement, a été mangé par la dévaluation de la guerre. Ils ont tout perdu. Et je me suis dit, waouh, c'est dommage parce que je ne comprends pas. Maintenant, jusqu'au bout de sa vie, c'est une femme heureuse et épanouie. Matériellement, elle n'avait pas goûté à tout. Mais aujourd'hui, honnêtement, si mon arrière-grand-mère, qui est au ciel, voit où je vis, avec qui je vis, comment va mon frère et ma sœur, comment vont mes parents, vous savez ce qu'elle dirait? Bande de riches! Vous avez été vraiment bénis, vous. Moi, j'ai galéré ma vie, moi. Et vous, vous avez tout récolté. Moi, j'ai planté, j'ai arrosé, et vous avez tout récupéré. Mais vous voyez, y a l'honneur du nom de Dieu, c'est pas que juste sur votre personne, c'est sur votre famille, c'est sur un ensemble de choses, et ça se construit dans le long terme. À cause de son nom, il a tout intérêt à ce que progressivement, d'année en année, non seulement tu fleurisses, mais tu portes du fruit, que de la fruit donne encore plus de vie. C'est le process que Dieu veut mettre en place. Alors oui, il fait passer des fois par des moments difficiles, mais il y a un process extraordinaire. Dieu aime quand tu réussis. D'ailleurs, quel parent voudrait l'échec pour son enfant? Quel parent? Aucun parent. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Aide-moi à ne pas faire honte à ton nom sur la terre. Donc dans ma façon d'agir, comme dans sa façon à lui, on a un intérêt commun. Et ce n'est pas question que financier. Parce que l'apôtre Paul dit, j'ai appris à être heureux dans l'abondance comme dans la disette, quand j'ai de l'argent, quand j'en ai pas. Mais en toute chose, j'ai appris que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Et un ambassadeur qui serait rayonnant comme ça, quel que soit le pays d'origine, j'ai envie d'y aller. J'ai appris un truc cette semaine. Ça me fait bizarre d'ailleurs. C'est mon frère qui me l'a dit. Il m'a dit, ils ont fait des statistiques ou ils ont fait des tests où est-ce que les gens sont heureux. On est plutôt bien matériellement en France, dans l'ensemble. On a 20% de satisfaction. En Inde, ils sont à 77%. Je me dis, c'est quoi l'arnaque ? C'est, vous voyez, c'est une façon de réfléchir, en fait. Seigneur, donne-moi une mentalité où je réalise que, waouh, Dieu, tu m'as béni. Parce que, et je termine sur ce point à cause de son nom, et c'est un petit peu négatif ce que je vais dire. Vous me permettez d'être négatif aussi ? Essayez d'être clair. Des fois, on met la honte à Dieu. Mais on ne met pas la honte à Dieu en fonction de la longueur de notre jupe, de notre piercing, de notre coupe de cheveux. Vous savez, je crois que ça ne change pas beaucoup pour le ciel. Vous savez, quand ils voient les Chinois, comment ils s'habillent, quand ils voient les Japonais, quand ils voient... Je pense qu'il est assez cool sur les habits, Dieu. Par contre, il y a quelque chose que Dieu regarde vraiment, c'est le cœur. Et quand il voit un cœur qui est orgueilleux, qui est critique, qui est négatif, qui dit du mal des autres, là, je pense que ça le touche. Et quelqu'un qui est insatisfait. Parce que ça, on ne prêche pas beaucoup là-dessus. On considère que ce n'est pas un péché, presque, l'insatisfaction. Mais pourtant, l'insatisfaction, ça blesse Dieu. Ça blesse Dieu parce qu'à cause de son nom, on lui fait une contre-pub en permanence. T'es enfant de Dieu ? Ouais, mais j'ai une vie nulle. Ben, ce n'est pas l'honneur de son nom. Quand tu n'arrêtes pas de casser ton église, quand tu casses ton conjoint, quand tu parles mal de tes parents, quand tu parles mal de tes enfants. J'ai juste illustré. Ça va être un peu douloureux, c'est chirurgical. Mais moi, pendant des années, j'ai eu du mal à comprendre le passage dans David et Bathsheba. Pas l'histoire, j'ai bien compris l'histoire, c'est assez simple. Mais à la fin de l'histoire, quand David pleure et qu'il dit « Seigneur, j'ai péché. » Et Dieu lui dit, ton péché est pardonné. Mais par contre, l'enfant, je vais le reprendre au ciel. Il dit, ouais, Seigneur, c'est où le pardon là-dedans ? C'est quoi l'explication ? Et Dieu dit, je ne vais pas te laisser prendre soin de cet enfant. C'est moi qui vais le gérer tout de suite et c'est moi qui vais en prendre soin. Mais je ne vais pas te laisser gérer cet enfant parce que, et il le dit pourquoi ? Il le dit puisque dans cette histoire, alors que je t'avais donné des femmes fort belles, nombreuses, magnifiques, tout. Va pas dire que tu avais un problème de sexe, David. Tu avais tout ce qu'il fallait. Et tu as considéré que tu n'en avais pas assez. Tu avais énormément d'or, d'argent. Ne me dis pas que tu n'en avais pas assez. Tu en avais assez. Ne me dis pas que tu manquais d'une maison ou d'un appartement de 66 mètres carrés parce que tu avais un palais. Alors, puisque tu as donné, et c'est ça qui est écrit dans la Bible, puisque tu as donné aux ennemis de l'Éternel, une occasion de se moquer de son nom. L'enfant, c'est moi qui m'en occupe, il part au ciel. Moi, ça m'a glacé quand j'ai lu ça. Et c'est pour ça que le Notre Père commence en disant Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que mes choix, mes décisions, chaque jour dans ma façon de me comporter, mon caractère, pas les trucs extérieurs seulement, les trucs intérieurs, mes jalousies, mes rancunes, mais tout c'est ça, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme toi tu voudrais qu'elle soit faite au ciel. Vous êtes encore là cet après-midi ? À cause de son nom. Bon bref, c'était une remarque ça, mais Dieu a tout intérêt à ce que tu réussisses parce que c'est son nom qui est en jeu. Alors c'est pour ça qu'il pleure quand tu te plantes. C'est pour ça que Dieu dit, ah, c'est ma chérie, c'est mon chéri. Pourtant, j'essaye. Et d'ailleurs, il va le dire pourquoi il essaye, c'est la dernière partie du verset. Ça s'affiche, verset 3. Il me rend des forces neuves, on l'a vu, donc c'est, il me redonne un souffle de vie pour l'honneur de son nom. Il me mène pas à pas sur le droit chemin. Je vais vous écouter là. Il me mène pas à pas sur le droit chemin. Il me mène pas à pas sur le droit chemin. Et j'aime pas trop la version encore, c'est pas grave. On va prendre en hébreu du coup. C'est un régal. En hébreu, c'est le 3B. Voilà. Alors, littéralement, de justice, dans des pistes, il mènera moi. De justice. C'est pour ça que c'est des pistes de justice. Et que le traducteur, il a dit dans un sentier droit. Mais alors, c'est pas un, c'est des. On verra ça tout à l'heure. De justice, il mènera moi. Bon, est-ce que Dieu veut que tu te plantes ? Non, il te mène. Il a tout intérêt à te diriger. C'est pour ça que le psalmiste, en psaume 32,8, dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Je ne veux pas que tu fasses n'importe quoi avec ta vie. Oh, nous, on est des brebis, mais franchement, ça doit être pénible. Quelques images de brebis, regardez. Au début, ça, c'est le rêve du berger. Je veux dire, le rêve d'un pasteur. Pasteur, berger, c'est le même mot, on est d'accord ? Tout le monde aligné, à mon commandement, en avant, marche, et tout le monde... Pas une qui bouge, pas une qui râle, pas une qui fait... Tous bien alignés, ça avance, et là, on avance vite. En file indienne, il n'y a pas une, tac. Ouais, non, non, ça arrive très rarement. Même si c'est un très bon berger. En général, voilà ce qui se passe. Image 2, elles sont globalement compactes, mais il y a toujours deux ou trois qui veulent se faire la belle. Qui se disent, les pâturages, c'était quand, là ? Il est déjà midi moins le quart, là. L'herbe, elle n'est pas si mal que ça, ici. Moi, je veux bien faire un petit raccourci, là, hein. Moi, je me fais un méchoui tout de suite, là. Mais les trois quarts vont continuer, mais quelques-unes d'entre nous, il n'y a pas que toi, il y a moi aussi. Hein. Enfin, on a envie de dire, Seigneur, je prends ma part tout de suite. Et je vais faire une petite descente parce que j'en ai marre de monter. Et puis, au bout de la descente, en général, ça finit comment ? Dernière image. Et les filles, qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? Il n'y a plus rien à manger. C'est que des cailloux. On n'a fait que descendre. Jusqu'à où on descend. Et c'est là où, comme le fils prodigue, tu dis, finalement, j'étais bien dans la maison de mon père. Pour ceux qui ont mangé pas mal de cailloux, vous savez de quoi je parle. Parce que le problème avec les cailloux, c'est que vous êtes beaucoup descendus, mais il faut remonter maintenant. Il faudra remonter. Mais, au cas où tu confonds Dieu avec ton pasteur est un homme, Dieu, lui, est le bon berger. Il écrit une parabole où Jésus dit « Un homme avait 100 brebis, il en perd une, il s'arrête, il dit « Elle est où ?» J'entends pas la voix de ma 99e brebis, je vais aller la chercher. « Ah non mais vas-y, lâche l'affaire, elle est descendue toute seule, elle a fait le maligne, là, elle est partie en vrille. On lui avait dit, si tu viens pas à l'église, tu vas te déconnecter, tu vas voir derrière. Laisse la Seigneur, elle n'a pas fini de brouter ses pierres. » Non, ça c'est les pasteurs, c'est les chrétiens, c'est vous et moi parce que des fois on est fatigué et puis on en a marre de porter les autres. Mais Dieu dit, il m'en manque une, ça va me prendre du temps, ça me fatigue, mais je vais aller la chercher. Je ne sais pas si c'est quelqu'un. Si tu es là aujourd'hui, ça faisait longtemps que Dieu dit que je vais te chercher. Wow. Vous êtes là encore ? Vous êtes là, c'est bon. Maintenant, je voudrais voir les deux derniers mots. De justice, il me mènera. De justice. L'Éternel dit à Abraham... Quitte ton pays, ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. À cette époque-là, il ne sait rien du pays. Il sait que c'est globalement vers la Méditerranée. Est-ce que Dieu lui a dit exactement quel pays il devait aller ? Tant que tu n'es jamais allé en Canaan, tu ne sais pas trop ce que c'est. Moi, si je vous dis, c'est quoi les prairies verdoyantes que Dieu a prévues pour vous ? Il y en a qui me diraient, si je savais, ça me motiverait. Ouais, il y a plein de choses que Dieu ne nous révèle pas. Il nous dit, je te guide, mais je ne vais pas t'expliquer tout le projet. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant là où tu vas, c'est la façon dont tu marches pour y aller. Et la relation du berger avec la brebis, elle n'est pas seulement lorsqu'elle est en train de brouter tranquille, elle est aussi dans sa capacité à marcher et à progresser. Oh, je vais essayer d'être plus clair. De justice. Ce que Dieu veut, c'est que tu ailles dans un chemin de justice. Or, beaucoup d'entre nous, on a tendance à faire des raccourcis qui ne sont pas forcément un chemin de justice. On veut juste un chemin qui soit rapide. Dans le domaine sentimental, dans ton travail, dans tes promotions, dans ta... tu dis, Seigneur, je fais une pause, je suis fatigué, je vais me servir. Et c'est pour ça qu'on est sans arrêt en train de casser les projets de Dieu pour nous, mais que le bon berger prend tout son temps à nous ramener et nous ramener et nous encore ramener. Mais il dit simplement la chose que je te demande, c'est de justice. Et je ne suis pas content avec la version Semeur parce que la version Semeur dit le chemin droit. Vous avez ça aussi ? Le chemin droit. Eh bien, ce n'est pas ça en hébreu. En hébreu, c'est les pistes. Et c'est un pluriel. Vous savez la différence entre un singulier et un pluriel ? Rassurez-moi. C'est juste un test pour voir si vous êtes endormi ou pas. Vous savez la différence entre un singulier et un pluriel ? Eh bien, spirituellement, il y a une grande importance. Parce que moi, je suis né dans des églises. Il y a deux types d'églises dangereuses. Les églises où on ne vous parle pas de la volonté de Dieu. Et vous faites tout seul à votre tête et vous allez vous planter. Parce que si vous ne laissez pas le Saint-Esprit conduire vos vies, vous allez faire des erreurs terribles. Et c'est très important que quand vous cherchez une décision, vous consultiez Dieu. Maintenant, attention, à l'inverse, il y a des églises de la révélationnite. C'est même plus la DSL, c'est la fibre optique qu'ils ont avec Dieu. Ça tombe, c'est des paquets, des octets, tout est inclus. Du genre des personnes qui, quand ils se lèvent le matin, ils disent « Seigneur, j'ai un choix devant moi, j'ai une chaussette noire et une chaussette bleu marine. Révèle-moi laquelle je dois choisir. » Non mais ça vous fait rigoler, mais il y en a qui sont là, hein. Il y en a qui, 8 fois par jour, Seigneur, est-ce que c'est le premier bus où je dois attendre le suivant, Seigneur ? Et ça crée quoi ? Alors, ça vous fait rire. Ça vous fait peut-être un peu... Moi, je me suis dit, mais j'ai agi, mais sans aller jusqu'à des petits détails comme ça. Mais des fois, on bug sur ce qui nous paraissent des choix hyper essentiels. J'étudie dans la fac de Paris 8 ou je vais à Paris 12 ? Je reste en Guadeloupe, je pars en métropole. Je suis intéressé par cette personne. C'est le bon ou pas ? Je dois déménager. L'église, je m'y investis, je ne m'y investis pas. On a tous ces choix tout le temps. Alors comment trouver l'équilibre entre la révélationnite d'un côté et le « je fais qu'à ma tête » ? Eh bien, c'est exactement ça. C'est deux justices dans des pistes qu'il me mènera. C'est-à-dire que Dieu veut... C'est plus la justice qui l'intéresse que la finalité. Oh là, écoutez. J'ai eu une histoire terrible, ça m'a cassé le moral encore hier. Il y a une missionnaire qui est partie en Angleterre. C'est David qui racontait ça hier. Elle est partie une missionnaire en Angleterre. Elle sert Dieu, elle est à fond pour Dieu. Là-bas, vous savez qu'il y a des bons pâturages en Angleterre, vu ce qu'il pleut quand même. Elle était célibataire, elle rencontre un Roméo formidable. Chrétien, bien, ils s'entendent bien. Il y a le courant qui passe. Donc, elle rentre en France. Ne me cherchez pas l'explication du donc, j'ai jamais compris. Elle était en Angleterre, ça se passait très bien, elle rencontre quelqu'un de bien, tout se passe bien, donc elle rentre en France. Je ne comprends pas, bref. On m'a dit que j'ai jamais compris les femmes, de toute manière, c'est pas grave. Mais Dieu peut-être vous comprend mieux. Il y a des hommes, ils font pareil. Pardon, c'était hors prédication, on enlève ça au montage. Elle rentre en France... Et là, pendant des années, elle dit « Merci Seigneur pour cet homme que tu m'as donné en Angleterre, etc. Il va venir à moi, il n'est jamais venu, le gars. » Et... Non, l'histoire, elle est finie, là. Si vous attendiez une amélioration, il n'y a pas d'amélioration. Et je me dis « Waouh !» Voilà ce qu'une théologie défaillante... Ça vous fait rigoler, mais vous n'avez aucun cœur. Une théologie défaillante... peut vous rendre amer. C'est quoi une théologie défaillante ? C'est une théologie où vous confondez le choix avec la mentalité. C'est-à-dire, au lieu de focaliser sur la notion de justice, qui est une question de mentalité, vous focalisez sur quelles exactement les coordonnées précises d'un point de vue GPS de l'endroit où je vais. Et je crois que Dieu est infiniment plus souple que vous sur les coordonnées parce que Dieu, il a des prairies et il sait, il y a plein d'endroits, si jamais, il connaît. Et si Dieu était monocolore, il n'aurait pas fait l'arc-en-ciel, il n'aurait pas fait la couleur qui est différente de toi et moi, etc. Dieu aime la diversité. Et Dieu recalcule en permanence. Mais cette jeune fille, avec sa théologie, bloque Dieu dans une petite case Et ce côté « je ne fais rien, Dieu le fait », c'est comme si une brebis disait à Dieu, ça va vous choquer peut-être, « Seigneur, tu me conduis vers des prairies verdoyantes uniquement, je bug. Porte-moi. Je bouge pas. Je bouge pas de là, de peur de prendre une mauvaise piste. Je bouge pas de là. » Le berger dit, « Oh, tu te bouges, oui. Ça vous choquerait qu'une brebis bug. Mais elle est hyper obéissante. Elle bug parce qu'elle veut pas se planter. Ouais, mais si elle bug, on peut rien faire avec elle. Il y a un moment, la confiance, c'est aussi prendre des risques. Et dire, l'Éternel est mon berger. Il va me conduire, il me mènera, mais ça m'oblige à marcher, quoi, oh. Alors après, on est là, « Dieu, il y en a marre et tout, je suis resté planté !» Bah oui, ma chérie. Mais j'ai essayé de te dire, monte, bouge, prends un peu de risque. Et c'est pas que... Je sais pas si ce garçon était pour elle. Je le saurais jamais, elle non plus, d'ailleurs. Mais on sait une chose, c'est qu'elle est plus mariée avec lui que j'espère qu'il s'est marié. Mais le problème, c'est pas ça. Elle aurait dû se poser une question. Je dis pas qu'elle aurait dû l'épouser, qu'elle aurait dû faire une déclaration enflammée. Elle aurait peut-être, ça aurait peut-être pas fait. Mais là, elle a juste des regrets. Ce que Dieu voulait, c'est qu'elle se dise pourquoi ce garçon. Ah non, écoutez ça, je vous en supplie, parce que moi j'ai fait trop de bêtises. Faites pas les mêmes erreurs. Dieu dit, est-ce que c'est la justice qui te pousse à agir vers là? C'est-à-dire, est-ce que si tu te construis avec cette personne, tu vas faire ça selon Dieu, avec une mentalité de Dieu? En gros, est-ce que c'est juste pour combler un manque affectif, sexuel, etc. ou bien c'est plus que ça? C'est aussi pour ces questions de manque, mais ce n'est pas une fuite. C'est dire, voilà, cet homme-là, je vais l'aimer tel qu'il est, je ne vais pas le changer. Ou cette fille, je ne vais pas la changer. Mais par contre, je reconnais en lui, en elle, des valeurs spirituelles. Et on va construire ensemble un couple où Dieu est au centre. Et là, Dieu dit, OK. Mais des fois, on bug, on est là, Seigneur, où est-ce que je vais? Est-ce que je dois partir en Seine-et-Marne ou est-ce que je reste dans mon appart de 45 mètres carrés à Créteil? Seigneur, je vais lancer la petite pièce, pile ou face, tu vas me dire où c'est. Alors non, on ne dit pas pile ou face, on dit Seigneur, je prie et j'essaye de trouver une révélation qui va me donner là où je vais. Mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il te dit. Ok, pourquoi t'irais en Seine-et-Marne? Et pourquoi tu resterais à Créteil? Si tu vas en Seine-et-Marne juste parce que tu as envie d'un appart plus grand, ça s'entend. Maintenant, fais une étude selon Dieu. Est-ce que c'est pour Dieu que tu y vas? Dans le sens, est-ce que spirituellement tu vas grandir là-bas? Est-ce que tu vas servir Dieu? Est-ce que tu vas aimer ta famille? Si c'est compatible, vas-y. Maintenant, si c'est une fuite parce que tu ne supportes pas ta vie d'aujourd'hui, tu risques de ne pas supporter ta vie plus tard. Et une autre personne, vous voyez, de deux personnes qui bougent, il y en a une qui le fera selon Dieu, l'autre non, et pourtant elles sont au même endroit. Mais il y en a une, c'est charnel, l'autre c'est spirituel. Alors le résultat est le même. Mais vous et moi, on est nuls parce qu'on va juger le résultat. Mais Dieu, lui, il juge le process. Il juge la mentalité. Est-ce que c'était juste d'y aller là? Oh, je prêche pour quelqu'un là aujourd'hui ou pas? Regardez l'image du Dakar. Ce pauvre gars qui s'est ensablé là. Quand il dit sur des pistes, il me mènera. Bon, ben là, il y a encore un autre qui a voulu prendre un raccourci. Et qui, au lieu d'être en train de conduire sa voiture, il est en train de pousser sa voiture. C'est mauvais signe quand vous poussez la voiture. Parce qu'en général, une voiture, c'est fait pour vous pousser vous et non l'inverse. Et il s'avère que beaucoup d'entre nous, nos raccourcis nous rallongent énormément le chemin. Et j'ai vu des chrétiens partir tout feu, tout flamme, en flamme. Ça traçait beaucoup plus vite que les autres. Et quelques minutes après, au bord de la route, leur faisait un petit coucou et ils étaient ensablés jusqu'au cou. Parce que il y a des choix qu'on paye quand même. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous vous plantez sentimentalement, mais ce n'est pas parce que vous aurez pris Paul ou Pierre, c'est parce que dans votre construction du couple, il y avait une défaillance. Et peut-être parce qu'après, une fois que vous ne l'avez pas bâti non plus. Je vais vous donner un exemple terrible. Je reçois en entretien quelqu'un qui me dit, « Pasteur, j'ai raté ma vie. » Waouh. J'ai raté ma vie. Pourquoi tu as raté ta vie? Parce qu'en 1983... j'ai épousé Jules. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Je dis, ok, attends. Tu veux dire que là, tu viens d'en prendre pour 31 ans et ce n'est pas fini? C'est 31 ans d'échec pour toi? Vous voyez, c'est comme si cette personne-là, elle se dit, comme la version Summer, il y a un bon chemin. J'ai pris le mauvais, je suis foutu. Tout le reste de sa vie, elle l'a subi. En disant, j'ai fait un gamin trop jeune. Je suis planté d'études. J'aurais jamais dû aller dans cette église. Maintenant, c'est foutu. Mais le Père Céleste, qui compte tes cheveux, lui, s'arrache les siens. Parce qu'il se dit, c'est pas possible, tant qu'elle perd, à vivre dans le passé, sur une expérience qui est douloureuse. On a tous des expériences douloureuses. On a tous des regrets, on a tous des remords. Mais je t'en supplie, ne mets pas ça sur le compte de Dieu. Et mon petit garçon, Ethan, m'a révélé ce qu'il voulait faire plus tard dans la vie. Conducteur de TGV. Franchement. Il m'a dit, conducteur de TGV, papa. J'essaye de le faire changer d'avis, parce que je pense que c'est pas terrible, conducteur de TGV. Vous savez, on n'écoute pas les parents, mais on y pense quand même. Et du genre, avec Nathalie, on a quand même étudié la question. Conducteur de TGV, le gars, il sera jamais là le week-end. Il fait des astreintes à l'horreur. Bon, ça a l'air d'être assez bien payé, mais franchement, c'est pas possible. C'est idiot. Non, moi, je le verrais bien prof, quoi. Comme mon père, comme ma mère, comme moi, comme ma soeur, comme mon frère. Non, pour ceux qui n'ont pas eu, il y a trois raisons d'être prof. Juin, juillet, août. Et chacune est une bonne raison. Vous comprendrez plus tard, quand vous travaillerez beaucoup d'heures. Mais si Ethan me disait, je veux être prof, et qu'un jour, Ethan, il est comptable. Je voulais qu'il soit prof, il est comptable. Qu'un jour, il me dit, papa, je suis comptable. Je dis, quoi ? J'avais d'autres projets pour ta vie, mon gars. Ta vie, c'est un échec. Je voulais que tu sois prof. Et il y avait prof ou rien du tout. Vous dites, mais ce papa, il a un problème. Et c'est exactement pareil ce que Dieu fait avec vous. Vous êtes là, vous faites un stage. Vous êtes en BTS Banque. Seigneur, je fais mon stage à la BNP ou au Crédit Lyonnais. Seigneur, je fais là. Et si Dieu ne vous répond pas, vous doutez de l'existence de Dieu. Dieu, vite ! BNP ou Crédit Lyonnais. Et Dieu se dit, mais attends, oh, tu sais, l'anneau justice, c'est que tu sois dans une belle mentalité. Ce que je ne veux pas, c'est que tu deviennes un banquier véreux. Je ne veux pas que tu finisses par aimer l'argent. Je voudrais que tu sois au Crédit Lyonnais ou à la BNP. Mais que tu fasses les choses avec une mentalité spirituelle, un chemin de justice. Alors moi, je reviens pour mon petit Ethan. Si un jour Ethan, il me dit, la comptabilité, je m'éclate là-dedans. Tous les jours, je vais au boulot avec la joie. Je sers Dieu, je suis responsable d'une compta, d'une église. Tac, je fais des choses. Je dis, mais ta femme, comment elle va? Super bien. Et tes enfants? À Noël, on se voit? Oui, on se voit tous les Noëls. Bah, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Et en fait, j'ai des idées pour mon fils, mais au final, les choix qu'il fera, je l'aimerai. Et je voudrais surtout qu'on passe du bon temps ensemble, quelle que soit la chose qu'il fasse, et qu'il soit le plus heureux possible, en fait. Voilà. Eh bien, je suis mauvais, eh bien, Dieu, il est bien meilleur. Alors, Dieu, il ne va pas bugger que tu aies épousé Marcel ou Jean-Luc. Il ne se dit pas, oh la vache, elle a pris Jean-Luc, c'est fini. Sa vie, c'est un échec, elle va le payer 40 ans. Dieu dit, vis ça avec justice. Maintenant, c'est fait. OK. Sois spirituel. La Bible dit, un mariage, ça se construit. L'amour est patient. Oh non, mais je préfère changer, Seigneur. Non. Non, je ne te dis pas de le jeter. Je te dis maintenant de l'aimer. Parce que ça, c'est la justice. Maintenant, tu vas l'aimer. L'amour est patient. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour n'envie pas le mal. L'amour ne soupçonne pas. Enfin, waouh, non mais excusez-moi, là, on change de dimension. Et on n'est plus dans du pile ou face. On est dans de la construction. Et là, vous allez commencer à dire, non, mais je suis obligé, que le Saint-Esprit est obligé de vous parler un petit peu quand même dans ce que je dis. Alors, je sais que beaucoup de prophètes et de gens super puissants vont vous faire le monde en blanc et noir. Mais ce n'est pas la couleur du ciel. Et quand il dit des pistes, c'est parce que le GPS du ciel, Christophe disait, le pasteur Christophe disait, le guidage par le Saint-Esprit, mais c'est vrai. Bien avant que Garmin, Mappy et tout ça aient inventé, Dieu, il est en permanence avec ta vie en train de faire. Calcul en cours. Calcul en cours. Alors oui, quand on a calcul en cours, on perd un peu de temps. Tout le monde est d'accord ? quand le GPS commence à vous dire calcul en cours, vous avez fait une bêtise. Et vous allez perdre un peu de temps. Mais ça ne veut pas dire que votre vie est foutue. Et ça ne veut pas dire que vous n'arriverez jamais. Ça veut dire que vous allez prendre un tout petit peu plus de temps pour y arriver. Maintenant, vous avez deux façons de vivre la suite du chemin. Pourquoi t'as tourné ? Vous avez la possibilité de dire « Ok, j'ai tourné, j'aurais pas dû tourner. Maintenant, je vais vivre le mieux possible chaque seconde du chemin qui reste. Parce qu'il rafraîchit mon âme. Il restaure mon âme. » Alors oui, ah, oh là là, je suis à la conclue. Regardez l'image, là, le verset 3 en entier. Voilà pourquoi il y a les forces neuves. Parce que quand on a fait des fausses pistes, on en a grillé des forces. Et pour certains, vous n'êtes pas vieux, mais vous avez beaucoup de kilomètres au compteur. Fatigué. Les jambes sont là, le corps est encore là, mais psychologiquement, vous avez pris tellement de coups que Dieu dit, « Ok, on va devoir faire quelque chose, on va devoir renouveler ton souffle. Alors, puisque je suis ton berger, tu es venu cet après-midi à Créteil, tu as écouté ce message, et Dieu te dit, je vais prendre soin de ton souffle. Je voudrais te donner des forces neuves, parce que le chemin n'est qu'à peine commencé. » Le chemin n'est qu'à peine commencé. Et la route est encore longue. Il y aura des moments resserrés, mais Christ est là pour te guider à chaque moment. Alors je te regarde en face. Je te dis, ton chemin, il est qu'à peine commencé. Maintenant, je ne te dis pas de te diriger toute seule. Mais je te dis de... Il n'y a pas de choses carrées. Je ne te dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien ta décision. Je dis, mesure chaque décision. Construire un couple ou divorcer, dans tous les cas, il y aura de la souffrance. Il n'y a pas une bonne décision, il n'y a pas une mauvaise décision. Des fois, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus imbriqué. Je ne sais pas si c'est la Guadeloupe, je ne sais pas si c'est la France. Je sais que ça va changer énormément de choses sur ton matériel. Mais il y a une chose qui ne doit jamais bouger, c'est ta relation avec Dieu. Et tous tes choix doivent être faits de façon à fleurir dans ta relation avec Dieu. On va fermer les yeux ensemble. L'Éternel est mon berger, alors que les yeux sont fermés. Les têtes sont baissées. L'Éternel est mon berger et il restaure mon âme. Le souffle de vie. Et qui sont à bout de souffle aujourd'hui. Dieu dit, je ne te manquerai de rien parce que j'ai mon nom qui est en jeu. Voilà une bonne raison pour laquelle tu vas t'en sortir. Ce n'est pas par tes propres forces. Mais parce que je t'ai prêté mon nom. Et je ne compte pas le reprendre. C'est magnifique. Ton Dieu est magnifique. Alors oui. Oui, je dois confesser que des fois... J'ai pris des raccourcis qui n'en étaient pas. J'ai cru, j'ai crié, j'ai pleuré. Des fois, le ciel a été silencieux dans ce que je pensais être des choix déterminants pour ma vie. Et au final, j'ai compris une chose. C'est que pour Dieu, mon état de cœur dans ces moments-là était encore plus important que mon choix. Et ça sera toujours ainsi. La musique, on va pas chanter, on va juste se placer devant Dieu. Laisse Dieu te conduire, laisse Dieu souffler sur toi aujourd'hui. le veulent, on va se lever pour Dieu. On va dire, Jésus, je te suivrai. Je vivrai pour toi. Ce n'est pas qu'une question de choix, c'est une mentalité totale de tous les jours.
D'accord, il relève le défi.